c'est le journal. C'est à cause du décalage avec le Royaume-Uni. Bonjour Catherine Dutu.
Bonjour Hervé, bonjour à toutes et à tous. Boris Johnson souriant, les pouces en l'air après avoir paraphé hier l'accord post-Brexit qui encadrera les relations entre Londres et Bruxelles après 47 ans de vie commune. Le divorce sera consommé ce soir à 23h GMT minuit à Paris. Les pro-européens ont le cœur lourd, mais pas de fête non plus chez les partisans de la sortie de l'UE, Covid oblige.
De notre côté de la Manche, un réveillon sans cotillon à cause de la pandémie.
Pas de soirée en discothèque par exemple, pas de grands feux d'artifice non plus. Les professionnels craignent de mettre la clé sous la porte.
Alors que va-t-on faire ce soir? Eh bien, c'est la question du jour que nous poserons tout à l'heure après le journal à Emmanuel Lallemand, anthropologue de la ville et de la fête.
Il quitte définitivement sa robe noire. Aujourd'hui, le grand avocat pénaliste Henri Leclerc, président de la Ligue des droits de l'homme, défenseur acharné des libertés, de ses premiers procès aux côtés de militants du FLN durant la guerre d'Algérie jusqu'à une audience pour les droits de la défense, c'était il y a 2 semaines, portrait d'un ténor du barreau dans ce journal. Le Royaume-Uni vit donc ses dernières heures au rythme des règles européennes. Ce soir s'achève la période de transition qui maintenait le Royaume-Uni dans le marché commun et l'union douanière européenne. Demain, peut-être le début des ennuis à la frontière, autrement dit de part et d'autre du Channel, de la Manche, où les contrôles doivent théoriquement reprendre et où la congestion menace. Entre inquiétude et soulagement de voir le Brexit enfin se réaliser, les témoignages de Britanniques recueillis par Louise Baudet à Ashford, petite ville du Kent, au nord, au sud-est de l'Angleterre.
Brexit or not Brexit, leave ou remain, question enfin réglée, se réjouit Brian.
Personnellement, j'ai voté pour le Brexit, pour en finir avec le diktat de Bruxelles. Mais ça a pris tellement de temps, tout le monde en a marre. Ça y est, un accord a été trouvé et on est content que ce soit derrière nous.
Il y a donc ceux qui rient et ceux qui pleurent, comme Jill, remainer convaincue, une partie de sa famille vit en Belgique.
Pendant des années, il a été très facile de circuler entre la Belgique et le Royaume-Uni. Et là, tout est en train de changer. Il nous faut une assurance santé, de nouveaux documents. On en parle depuis tellement longtemps, et voilà qu'on y est. Je pense que nous sommes nombreux à être très tristes.
Sur le pont qui enjambe la bretelle d'accès à l'autoroute, Mandy Rossi, coprésidente régionale du Green Party, se désole de voir le jardin de l'Angleterre envahi par les camions.
C'est maintenant que chacun se prend la réalité en pleine figure. Alors il y en a qui continuent à dire que si ça nous rend notre souveraineté, ce n'est pas grave, que ce soit un peu le chaos. Et puis il y a nous qui avons hurlé dès le début et qui pleurons maintenant, parce que toutes nos craintes se réalisent.
Mais la principale crainte aujourd'hui est d'une toute autre nature.
Je ne pense pas que le Brexit soit encore un problème maintenant qu'on a un accord. Je m'inquiète beaucoup plus du Covid que du Brexit.
Car le Kent est aussi l'épicentre de la nouvelle variante du virus, de quoi ranger le Brexit au rayon des affaires classées.
Et dans un contexte de crise profonde sanitaire et économique, si les partisans du Brexit voient leur rêve enfin se réaliser, la majorité conservatrice au pouvoir à Londres n'a pas l'intention de faire la fête, Richard Place.
Boris Johnson s'était offert une occasion de célébrer la fin de l'année. Le Brexit, enfin, qu'il a tant voulu, et en plus, avec un accord commercial validé facilement par le Parlement. Mais à peine le vote passé hier, il a dû revenir derrière son pupitre spécial Covid, celui où il s'est retrouvé si souvent ces derniers mois. Accompagné de 2 médecins, il est venu annoncer à quel point la situation est grave dans tout le Royaume, à quel point les services de santé sont surchargés, à quel point la variante du virus contamine encore plus vite et replonge le pays dans une crise sanitaire. Le directeur médical national, le professeur Steve Powys, a refroidi tous ceux qui étaient tentés de faire la fête ce soir, que ce soit pour le nouvel an ou pour le Brexit.
Restez à la maison, marquez le nouvel an avec les plus proches et les plus chers, selon les règles. Ça réduira l'infection, soulagera les hôpitaux, c'est comme ça que chacun pourra sauver une vie. Le Covid aime la foule. S'il vous plaît, laissez la fête pour plus tard.
Pas de rassemblement, pas de feu d'artifice au bord de la Tamise. Londres sera un désert ce soir, loin des traditionnelles célébrations du Nouvel An. En pleine restauration depuis 3 ans, Big Ben sonnera à minuit exceptionnellement pour la nouvelle année, mais il n'y aura pas la foule habituelle au pied de la célèbre cloche.
En France, sous les cloches de Notre-Dame à présent, de l'électro, un concert en réalité virtuelle proposé par la ville de Paris et le musicien Jean-Michel Jarre. Dès 23h25, il sera derrière ses claviers, vêtu d'une combinaison et de capteurs. Des caméras le projetteront, ou plutôt son avatar, dans l'allée centrale de Notre-Dame virtuellement reconstituée jusque dans l'acoustique. Un concert en réalité augmentée, retransmis en direct et gratuitement, notamment sur le site de la ville de Paris, sur YouTube ou encore Facebook. Toujours depuis Paris, Paris. Mais de l'autre côté de la Seine, le DJ David Guetta proposera un concert enregistré sans public devant la pyramide du Louvre au profit de l'UNICEF et des Restos du Cœur. Quant à Patti Smith, qui fête ses 74 ans, elle joue depuis New York. Tapis persan et guitare Gretsch sont déjà installés. Les incantations de la mystique Patti Smith, mais aussi le vent des contrées de l'Himalaya en ouverture de Père Adam, son dernier projet musical.
France Culture, il est 7h05, la suite de votre journal, Catherine Dutu. 100 000 policiers et gendarmes mobilisés la nuit prochaine.
Pour faire respecter le couvre-feu et éviter les rassemblements, Gérald Darmanin appelle à repérer en priorité les organisateurs de soirées pour permettre les poursuites pénales. Autrement dit, pas de grosses fêtes de la Saint-Sylvestre ce soir, ni exception au couvre-feu, contrairement à ce qui s'était passé pour Noël. Ceux qui sont dehors entre 20h et 6h du matin, sans raison jugée valable et sans attestation, risquent une amende de 135 euros. Pas de rassemblement donc, comme d'habitude, sur les Champs-Élysées. Et dans une quinzaine de départements, les préfets ont interdit la vente et l'usage de la plupart des produits pyrotechniques dans l'espace public ou même chez soi. Double objectif, limiter les rassemblements dans le contexte sanitaire, mais aussi éviter qu'ils puissent être utilisés contre les forces de l'ordre. Et cette interdiction en Île-de-France signe la fin d'une année dramatique pour le secteur. Le reportage de Thomas Giraudeau.
Dans cette boutique parisienne de déguisements et accessoires de fête, les feux d'artifice sont rangés à l'arrière, visibles sur un catalogue seulement. Dommage pour Victorien, il était venu chercher de quoi célébrer la nouvelle année avec quelques amis.
J'ai l'habitude d'en acheter ici parce que j'habite à côté, donc en plus ça fait vivre un petit commerce de quartier. Ils n'ont pas le droit de bosser, donc c'est un peu dommage.
François Gentil, le gérant, a l'habitude de ces interdictions. Certains de ses clients ont anticipé cette année, venant acheter avant Noël et l'entrée en vigueur des arrêtés. Il lui manque surtout les professionnels.
Cette année, puisqu'il y a les restaurants sont fermés, les boîtes de nuit et ainsi de suite, donc toute notre clientèle qui avait l'habitude d'acheter pour 50, 100, 150 personnes, ne sont pas venus. Non, il nous faut 50 soirées à 6 personnes pour faire le même chiffre d'affaires.
Le secteur qui a déjà vu son chiffre d'affaires plonger de 85% cette année se serait bien passé de ces nouvelles réglementations. Jean-Frédéric Dartigue-Pérou du syndicat des fabricants de pyrotechnie et d'artifice.
Tirer un petit feu d'artifice dans un jardin, ça ne pose aucun problème à partir du moment où le public est relativement restreint, quelques personnes. Ça n'a rien à voir avec le feu que je vais tirer au milieu du domaine public, où là, oui, beaucoup de gens peuvent venir s'agglutiner autour.
Et de toute façon, selon lui, certains vont trouver des alternatives.
Il ira sur Internet, il l'achètera sur un site étranger, avec des colis totalement banalisés, des matières dangereuses, des explosifs, qui vont se retrouver dans des centres de tri, sans que personne ne le sache.
Les artificiers comptent sur le 14 juillet l'année prochaine pour se relever s'ils tiennent le choc jusque-là.
Et dans un contexte inédit de crise sanitaire et économique, Emmanuel Macron présentera ses vœux aux Français ce soir à 20h. Une allocution à suivre en direct sur France Culture. Émission spéciale présentée par Stanislas Vazak, aux côtés notamment du politologue Olivier Roucan. Il est 7h08 sur France Culture. Arrêtons-nous à présent sur un ténor du barreau. À 86 ans, le grand avocat pénaliste Henri Leclerc quitte définitivement sa robe noire aujourd'hui après 65 ans de carrière. Il restera membre honoraire du barreau, un exemple pour la très grande majorité de ses pairs et un ardent défenseur des droits de l'homme et des libertés. Son portrait est signé Florence Turme.
86 ans et toujours la même voix grave et chaude qui s'impose dans les salles d'audience jusqu'aux dernières affaires plaidées. Le 21 novembre aux assises de Nanterre pour un jeune homme accusé d'avoir voulu immoler sa petite amie et le 16 décembre devant la première chambre civile de Paris pour défendre précisément les droits de la défense. Je ne pouvais pas rêver meilleure dernière plaidoirie. Les libertés, éternel combat de l'avocat et du président de la Ligue des droits de l'homme. Le temps est loin des premiers procès de militants du FLN durant la guerre d'Algérie ou de ceux de mai 68, mais la passion reste intacte et en 65 ans de barre, son objectif premier n'a pas varié, ramener l'accusé dans la communauté des hommes. Il s'est toujours dit convaincu qu'il n'existe pas de peine juste, que la prison est bien cette école du crime dénoncée par Victor Hugo. Il l'aura évité à Richard Roman, cet homme accusé à tort du viol et du meurtre d'une petite fille de 7 ans, ou encore à Dominique de Villepin, relaxé dans l'affaire Clearstream, plaider une peine de réconciliation pour François Besse, l'ancien lieutenant de Messrine, obtenu 8 ans pour Véronique Courgeot, la mère infanticide, qu'il défend au bord des larmes devant les assises d'Indre-et-Loire. Elle a commis une faute lourde, un crime, mais ce n'est pas un monstre. Les défendre tous, disait son confrère et mentor Alberno, en plus d'une bibliothèque héritée de Raymond Poincaré, lui aura légué une autre devise de Victor Hugo, s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là.
Henri Leclerc, invité hier de la Grande Table, c'est à réécouter sur franceculture.fr. Dans le Paris du Saint-Germain-des-Prés de l'après-guerre, il avait commencé à se faire un nom en côtoyant les plus grands jazzmen américains. Le pianiste et compositeur Claude Bolling est mort à l'âge de 90 ans. Il laisse derrière lui beaucoup de musique de film, 60 ans de carrière, des musiques devenues cultes, Maxime Tellier.
Écoutez, Claude Bolling s'est replongé dans la bande-son d'une époque, le Paris des années 40 après la libération, de ce pianiste précoce, admirateur des jazzmen américains, Fats Waller d'abord, il devient ensuite disciple de Duke Ellington. Il apprend des plus grands lorsqu'il passe à Paris, dans les caves enfumées de Saint-Germain-des-Prés. Je me souviendrai toujours de ton jeu de piano, lui glisse notamment Louis Armstrong. Il joue dans les cabarets, les musicals et se fait une place dans la composition de musique de film. Borsalino en 1970 d'abord avec Delon et Belmondo. Mais aussi la série Les Brigades du Tigre entre 1974 et 1983. Incognito. Et en tout, Claude Bolling joue plus de 1000 concerts avec notamment son Big Band fondé en 56 qui jouait il y a quelques années encore. Ami de Gréco, de Salvador, de Boris Vian, c'est lui qui avait aussi arrangé le morceau La Madrague chanté par Brigitte Bardot.
Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés.
La Madrague arrangée par Claude Bolling, le compositeur, pianiste de jazz, est mort, je le rappelle, à l'âge de 90 ans. Le temps de ce jeudi 31 décembre, pas vraiment la saison du soleil et des chansons, comme le chantait Brigitte Bardot. Une météo hivernale aujourd'hui avec de la neige sur le nord et l'est du pays, ainsi que sur tous les reliefs des basses altitudes. Des gelées ce matin sur la moitié est du pays, pas plus de 0 à 6 degrés sur la moitié ouest, Hervé Gardette.
Merci Catherine Dutu. À 7h25, le reportage de la rédaction se demandera pourquoi l'Afrique a mieux résisté au Covid que le reste du monde. Et puis dans un instant, la question du jour, question récurrente chaque 31 décembre, mais qui prend une dimension particulière cette année. Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ce soir ? France Culture, il est 7h12.